de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Artiste expérimentale, musicienne, performeuse, vidéaste, photographe, peintre, sculptrice, il est bien difficile d'accoler une étiquette au nom de l'américaine Laurie Anderson. Issue de l'underground new-yorkais, elle s'est fait connaître du grand public avec Oh Superman, un morceau qui, en dépit de ses 8 minutes, fut un immense succès. Adepte de l'électronique et des nouvelles technologies depuis toujours, la liste est longue des artistes avec lesquels elle a collaboré. De William Burroughs à Peter Gabriel, de Brian Eno à Jean-Michel Jarre, de Wim Wenders à Philip Glass, de Ryushi Sakamoto à Lou Reed, son défunt mari. Contrairement à ce que l'on raconte, je n'ai jamais prétendu faire de l'avant-garde, dit Laurie Anderson. Pas plus aujourd'hui qu'à mes débuts. Je n'ai jamais cherché à me distinguer juste pour le plaisir d'être à part ou de me sentir en avance sur mon époque. Ce que je suis, profondément, c'est une conteuse d'histoires. Pour la découvrir ou mieux la connaître, écoutons les histoires et les sons de Laurie Anderson dans la présentation qu'en faisaient Daniel Coe et Guy Scarpetta dans Les Nuits Magnétiques de 1982.
Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue à l'heure de l'écoute difficile. Sous les cadres l'impitoyable, impénétrable son de la musique difficile. Alors, asseyez-vous bien droit sur une chaise au dos carré. Boutonnez bien votre chemise et préparez-vous à une musique difficile. Oula.
Une soirée consacrée à Laurie Anderson. Pour ceux qui ne sauraient pas encore qui est Laurie Anderson, eh bien disons qu'elle est une figure parmi les plus représentatives de ce qu'on a pu appeler la performance, et que ses spectacles sont tout autre chose que de simples concerts. Laurie Anderson s'est inventé son propre espace de liberté. En associant différents domaines visuels et sonores, et aussi différents médias, au premier plan desquels les moyens offerts aujourd'hui par l'électronique, elle développe un art de juxtaposition et d'entremêlement d'éléments divers d'apparence hétérogène. Le miracle, car il y a un miracle, c'est que tous ces éléments trouvent un lien à travers une sorte de logique secrète, une logique d'ordre poétique. Laurie Anderson est très perfectionniste et elle n'a pas voulu qu'un de ses concerts de Bobino soit enregistré en public, d'autant plus qu'il s'agissait d'extraits. Elle préfère attendre que les quatre parties de United States 1-4 soient complètement terminées pour les enregistrer dans les meilleures conditions possibles. Ce soir, nous allons écouter d'autres enregistrements de Laurie Anderson. Les uns sont connus, d'autres beaucoup moins, et certains sont tout à fait inédits.
L'année dernière, j'ai pris un avion bimoteur de Milwaukee à New York. Au-dessous de la Guardia, en des moteurs tomba un pin et on commença à descendre. Puis l'autre moteur s'arrêta et on n'avait plus aucun contrôle. C'était silencieux. New York devenait de plus en plus grand. On entendit une voix sur l'intercom. Elle dit:
notre pilote vient de nous informer que nous allons tenter un atterrissage forcé. Veuillez éteindre toutes les cigarettes, remonter les plateaux verticalement et les vriller. Votre capitaine vous dit: ne paniquez pas, s'il vous plaît. Votre capitaine vous dit: coincez vos genoux sous votre menton. Le capitaine dit: mettez vos mains devant vos yeux. Le capitaine dit: mettez vos mains sur votre tête. Mettez vos mains sur vos genoux. Réveillez-vous, bande de canailles. Ceci est votre capitaine. Avez-vous perdu votre chien? Nous descendons. Nous tombons. Nous tombons tous ensemble.
There is no pilot. You are not alone. Stand by. This is the time. And this is the record of the time. This is the record of the time.
Laurie Anderson est née en 1947 à Chicago. Elle a étudié l'histoire de l'art au Collège Barnard et la sculpture à l'Université de Columbia. Elle a ensuite enseigné l'histoire de l'art au City College de New York et pendant toute une période à New York, elle a été critique d'art dans différents magazines. C'est dans la deuxième moitié des années 70 qu'elle a commencé à faire des performances qui associaient la musique, le son, le cinéma, les projections de diapositives et le langage. Et elle a donné des performances aux États-Unis, à New York, en Californie, et aussi dans différentes villes d'Europe. À propos de ses performances, on a beaucoup parlé de son violon, ou plutôt de ses violons. Des violons qui peuvent être translucides et éclairés de l'intérieur, ou bien c'est l'archet qui est lui-même lumineux. Ou bien c'est encore un violon spécial, un violon muni d'une tête de lecture de magnétophone sur laquelle passe, dans un sens ou dans l'autre, un archet sur lequel est fixé, à la place du crin, une bande magnétique. Alors suivant le préenregistrement, c'est un violon qui peut avoir le son d'un violoncelle, d'une contrebasse ou même d'une flûte. C'est aussi un violon qui peut parler avec des paroles à l'endroit et à l'envers suivant le mouvement de l'archet. Par ailleurs, Laurie Anderson peut enregistrer le son d'un violon et le faire passer à l'intérieur de sa bouche grâce à un petit haut-parleur et elle peut moduler le son en ouvrant ou en fermant plus ou moins la bouche. Comme on le voit, il s'agit de processus de déterritorialisation des domaines habituels du sonore et aussi du visuel. Et ça, c'est une des constantes de l'art de Laurie Anderson. Elle peut aussi utiliser le violon à la façon d'une guitare, et elle peut encore l'utiliser de façon plus orthodoxe, voire de façon quasiment classique, en intercalant tout de même des séquences nettement moins classiques.
Thank you.
Laurie Anderson vient de donner 3 concerts à Paris. Il faut plutôt dire 3 spectacles, 3 performances, puisque dans ces manifestations, le visuel comptait autant que l'auditif. Il y a donc eu 1 performance vendredi dernier et 2 le lendemain. Le même spectacle, des variantes près. Il durait environ 2h30. Je crois qu'on a pu constater une évolution depuis le dernier passage de Laurie Anderson à Paris, il y a de cela 3 ans. Sa maîtrise paraît de plus en plus grande, surtout en ce qui concerne l'utilisation de l'électronique et les différents processus de déterritorialisation visuelle et sonore dont je parlais tout à l'heure. C'est un spectacle qui a particulièrement fasciné Guy Scarpetta.
Ce spectacle, bon, c'est d'abord un work in progress, c'est-à-dire qu'on a quelques fragments rapidement montés pour les besoins de la cause d'un travail qui doit faire 1 huitaine d'heures, si je me souviens bien, dans sa forme définitive. Donc c'est un petit scoop, un petit flash sur quelque chose qui se développe, et je crois qu'il ne faudrait pas le considérer comme un travail abouti. Hein. C'est à mon avis, c'est une accumulation d'éléments. Je crois que ça fait apparaître quand même une des grandes singularités de la scène artistique new-yorkaise, bon, et américaine. C'est-à-dire qu'on a là quelqu'un qui est a priori inclassable. On peut prendre Laurie Anderson par plusieurs bouts. On peut dire que c'est de la musique, on peut dire que c'est du théâtre et du spectacle, on peut dire que c'est de la littérature, pourquoi pas. Et ce côté inclassable me paraît intéressant quand même. C'est pas codé, ça utilise des codes et ça les fait dériver. C'est peut-être très subjectif. Moi, j'aurais plutôt envie de mettre l'accent justement sur le texte. Non pas que j'ai envie de faire de Laurie Anderson une sorte de poète ou d'écrivain qui lirait ses textes en public. Bon, j'ai reçu là hier une petite revue de poésie rescapée du réalisme socialiste qui présente un numéro spécial sur les poètes qui disent leurs textes et qui intègre quelques textes de Laurie Anderson au milieu de textes soviétiques ou soviétisants, etc. Ça me paraît accablant de sourdité. De penser ça, mais je crois qu'il ne faudrait pas considérer que les textes qui ponctuent le spectacle et qui y sont intégrés sont absolument sans intérêt. Dans la mesure où ces textes renvoient d'une certaine façon comme une mise en abîme aussi à ce qui se passe au niveau de la perception générale. Une chose qui me paraît tout à fait notable, c'est qu'il est toujours question, plus ou moins dans tout ça, de la façon dont le réel se dissout ou se désintègre à partir du moment où il y a une carence du langage. Il y a par exemple une séquence où il est question d'une grève à la télévision, du fait que ce sont des journalistes de la presse écrite qui présentent les émissions de télévision, qu'ils emploient un langage emphatique, rhétorique, etc., qu'il est impossible de traduire dans le langage des sourds-muets qu'à la télévision américaine n'accompagne toutes les émissions. Et les producteurs leur demandent de réduire leurs mots, de ne pas utiliser des mots de plus de 2 syllabes. Et du coup, ils sont complètement désemparés, ils ne savent pas quoi faire. Bon. Première séquence importante. Deuxième séquence, la séquence des bébés. Laurie Anderson prétend avoir, dans les pays qu'elle traverse, dont elle ne parle pas la langue, une complicité immédiate avec les bébés, qui ne parlent pas la langue, et que les mères utilisent pour tester le trafic. C'est-à-dire que les mères envoient les poussettes comme ça dans la rue, les bébés sont pris dans la circulation, ils servent un peu d'avant-garde dans la traversée de la rue, et ils sont à la fois horrifiés, désemparés, et Laurie Anderson dit qu'elle a une complicité vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette incapacité de parler l'angoisse. Bon. Troisième séquence, bon, qui m'a frappé hier soir, une séquence où il est question du langage japonais, où elle dit qu'il n'y a pas de langage japonais, mais qu'il y a d'un côté des dessins et de l'autre des sons qui sont synchronisés avec le mouvement des lèvres, où elle touche à une question de fond, qui est l'idéogramme, qui est la disjonction entre l'oral et l'écrit, et l'effet que ça peut produire. Tout ça ne me paraît pas gratuit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans tout ça, ce qui est en jeu, c'est le défi relevé par Laurie Anderson, et c'est peut-être une des rares à le relever aujourd'hui, que pose la civilisation de l'audiovisuel, la civilisation de l'électronique, au langage. Moi, je ressens ce spectacle comme une sorte de réponse à tous ces stéréotypes qu'on entend un peu partout, comme quoi la télévision tuerait la littérature, comme quoi les gamins qui regardent trop la télé ou qui écoutent de la musique sur leur Walkman à tout bout de champ seraient plus capables de parler, comme quoi l'art actif mourrait très vite parce que les gens sont habitués à une réceptivité, à une passivité de l'audiovisuel. Je crois que ce que fait Laurie Anderson, c'est une riposte à ça.
Beispiele paranormale Tonbandstimmen. Was sind paranormale Tonbandstimmen? Es sind Stimmen unbekannter Herkunft. Es sind paranormale Stimmen.
Ihren Klang. Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht.
Shining slowly.
Ich höre nur
Birds are flying.
Ihren Klang.
So low. Honey, you're my one and only. So pay me what you owe me. Lights are going down slowly. In the woods, the animals are moving. In my dreams, you're talking to me. Your voice is moving through.
Accomplish them fair and it's so destiny. 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 Accomplish them fair and it's so destiny.
Beispiel Nummer 22.
The sun is shining slowly. The birds are flying so low. Honey, you're my one and only. So pay me
you owe me.
Il s'agit d'immerger la voix, parce que le corps ne fait que suivre la voix, dans une machinerie technologique. Qu'est-ce que fait Laura Anderson ? Elle utilise un certain nombre de petites machines, comme ça, un vocodeur, des synthétiseurs, des pré-enregistrements doublés avec une voix live, etc., qui marquent un écart irréductible et qui provoque dans la salle une impression à la fois de jouissance et de malaise, très équivoque, entre la voix et le corps qui est censé émettre cette voix. Entre l'audio et le visuel. Je trouve que la voix de Laura Anderson, par moment, est une voix d'homme, par moment, est une voix, est un cœur, est une voix doublée ou triplée, par moment, est une voix dont les accents, les timbres et les rythmes sont transformés machiniquement. Du coup, cette homogénéisation que tout le monde fait de manière profondément inconsciente entre la voix et le corps qui est censé émettre la voix saute. Ça vacille. Laura Anderson, à mon avis, dit, à sa façon, quelque chose que tout le monde considère comme parfaitement saugrenu, à savoir qu'au commencement était le verbe.
And they were all made of wood. Well, they were wooden trees. And they were made entirely of wood. Your shirt was on fire, and your hair was on fire, and flames were licking all around your feet. And I did not know what to do. And then a thousand violins began to play. I really did not know what to do then. So I just decided to go out and walk the dog. saw a dog 30 feet high. And this dog was made entirely of light. And he filled up the whole screen. And his eyes were long hallways. He had those long, echoing hallway eyes. On the radio, and I heard a song by Dolly Parton, and she was singing, wow, I feel so bad, I feel so sad, I left my mom and I left my dad, and I just want to go home now. I just wanna go back to my Tennessee mountain home now. Well, you know she's not gonna go back home. And I know she's not gonna go back home. And she knows she's never gonna go back there. I just wanna know who's gonna go and walk her dog. Her dog. Well, I feel so bad. I feel so sad. But not as bad as the night I wrote this song. Close your eyes. Okay. Now imagine you're at the most wonderful party. Okay. Delicious food. Uh-huh. Interesting people. Uh-huh. Terrific music. Uh-huh. Now open them.
Les horaires étaient tellement serrés à Paris pour Laurie Anderson qu'il n'a pas été possible de l'interviewer entre deux concerts. Mais juste avant de repartir par avion pour New York, elle s'est rendue à Courbevoie dans un studio de télévision afin d'enregistrer une émission pour Antenne 2. Une émission dans la série Haute Fréquence de Bertrand Mérineau, Alain Burros et Michel Elie. Nous avons suivi Laurie Anderson dans ce studio de télévision de Courbevoie. Elle est venue avec ses violons, ses appareillages électroniques, son vocodeur pour transformer la voix et puis des petits instruments comme la guimbarde par exemple.
Bonsoir. Bienvenue à l'heure de l'écoute difficile. Sur les cadres l'impitoyable, impénétrable son de la musique difficile. Alors, asseyez-vous bien droit sur une chaise au dos carré. Boutonnez bien votre chemise et préparez-vous à une musique difficile. Oula. Oula. Oula.
Oula, 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 oula.
rentrant chez moi, j'ai ouvert la porte à main nue. Et j'ai dit, « Hey, qui a déchiré mes échantillons de papier de meublement? Qui a mangé tous les raisins ?» Et j'ai trouvé un type assis là. Et je lui ai dit, « Hey, mon pote, qu'est-ce qui se passe ici ?» Il se mit à sourire. Et quand il souriait, il découvrait des grandes dents blanches, comme les hôtels de luxe de la côte de Floride. Et quand il fermait la bouche, il ressemblait à une grande cicatrice. Et je me suis dit, ben, ma vieille, on dirait que t'as un invité et que tu dois jouer les hôtesses. Et je lui ai dit, hey, mon pote, qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Qui es-tu? Et il me répond, moi, je suis le docteur de l'âme. Et tu sais, le langage est un virus qui vient de l'espace. Et écouter ton nom, c'est mieux que de voir ton visage.
Il y a quelque temps, j'ai eu un torticolis. Je ne pouvais plus bouger le cou, alors je suis allée voir un docteur et il m'a dit, « En fait, c'est assez grave. J'ai bien peur qu'il ne faille opérer immédiatement. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Aussi, je suis allée voir trois autres spécialistes. Et ils m'ont tous dit qu'il fallait opérer immédiatement. J'ai finalement décidé de me faire opérer. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont demandé, au fait, par quelle police d'assurance êtes-vous couverte? Et j'ai répondu, je n'ai pas d'assurance. Et ils m'ont dit, eh bien, peut-être pouvons-nous attendre encore un peu. Je suis finalement allée voir un docteur et la première chose que je lui ai dite, c'est que je n'avais pas d'argent et pas d'assurance. Et il a dit, montrez-moi où ça vous fait mal. Et je lui ai dit, ma foi, ça commence ici, dans le cou, et puis descend dans mon bras comme ça, et comme qui dirait les doigts, de cette main, en sont tout recroquevillés. Et puis, sur l'autre main aussi. Et il m'a dit, précisément, quelle est votre profession?
Salut. Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Oui, il y a pas mal de bruit ici. C'est plein de monde. C'est une petite sauterie, quoi. Tu veux pas te radiner? On s'amuse comme des fous. Allons. Enfile tes chaussures. Enfile ta veste. Et saute dans un taxi et viens tout droit ici. Je sais que tu es endormi. Mais on s'amuse comme des fous. Eh bien non, il n'est pas là. Bon, peut-être il est là et peut-être il n'est pas là. Quelle est la différence? Alors, oui, je sais que c'est cher. Mais 45 francs, qu'est-ce que c'est? C'est pour une bonne cause. Je pourrais te faire rentrer.
Laurie Anderson est presque seule dans ce studio tout blanc de Courbevoie. Côté cabine technique, on voit sur une infinité de téléviseurs son visage pris sous des angles différents. Maintenant, on a presque éteint toutes les lumières, à part un projecteur bleu qui l'éclaire par derrière. C'est presque la pénombre. Elle s'est mise une sorte de petite lampe électrique à l'intérieur de la bouche. Elle l'allume. Ça lui fait des lèvres rouges, d'un rouge lumineux et des dents d'un blanc incroyablement éclatant puisqu'elles sont éclairées de l'intérieur de la bouche.
Are you ready? No, I'm home.
No, this is coming out.
Okay. On se recale.
Okay, it's ready for me.
Okay.
Vas-y.
Notre plan consiste à lancer par avion sur votre pays un grand nombre d'objets divers. Certains de ces objets seront utiles et d'autres seront tout simplement bizarre. Ce qui prouvera que ces bizarreries ont été produites par un peuple suffisamment libre pour avoir eu l'idée de les manufacturer. Les US help. Not harms developing nations by using their natural resources and raw material.
And then we need the little table again for the violin so that I can don't have to go.
Okay.
Je n'aime plus ta bouche, je n'aime plus tes yeux, je ne l'aime plus. Je n'aime plus tes yeux, je n'aime plus la couleur de tes pullovers, je ne l'aime plus. Je n'aime plus la couleur de tes pullovers verts. Je n'aime plus la façon dont tu tiens tes stylos et tes crayons. Je ne l'aime plus.
Laurie Anderson, haute fréquence, Antenne 2. Les trois concerts de Laurie Anderson ont remporté un grand succès. Ils se sont déroulés à bureau fermé. Le Festival d'automne avait déjà invité Laurie Anderson à la chapelle de la Sorbonne il y a 3 ans, mais elle était déjà venue en France en 1977 à la Biennale de Paris. Seulement, il y avait eu un grand concert d'un artiste très célèbre le même soir à un autre endroit et très peu de gens s'étaient dérangés pour elle. Il faut dire qu'elle n'était absolument pas connue à l'époque. Et aussi qu'elle était différente, même physiquement. Elle était discrète, pas très apprêtée, on ne la remarquait pas trop. Et puis soudain, depuis quelques années, il y a eu un changement radical dans sa personnalité. Aujourd'hui, avec sa chevelure punk, son costume noir, c'est quelqu'un véritablement qui rayonne.
L'essentiel, quand même, dans tout ça, c'est que ce spectacle est un événement d'ordre érotique. C'est-à-dire qu'avec Laurie Anderson, on a une femme qui ose être érotique. Laurie Anderson me paraît être une des rares femmes, aujourd'hui, qui sait produire un effet de trouble sexuel, directement sexuel, en ne jouant ni le fantasme généralisé, ni le refus de la femme objet, ni la réponse à un stéréotype, mais simplement en s'investissant en tant que tel, dans une jouissance. C'est-à-dire qu'on a là un personnage qu'on peut définir avec une coiffure un peu ébouriffée, un côté un petit peu enfant perdu, très tendre, qu'on a un peu envie de cajoler, en même temps un peu dur dans sa réponse, comme quelqu'un qui saurait ce qu'il veut, qui, quand il dit « j'ai envie de toi », touche à quelque chose de vrai, de très vrai, avec une voix désexualisée par la machinerie, mais resexualisée quand la machinerie, et d'autant plus resexualisée quand la machinerie ne fonctionne pas, une voix très douce, tendre, lente, un déplacement extrêmement lent entre les machines, entre les synthétiseurs, sur la scène, une façon extrêmement tendre de toucher à cette machinerie qui sans cesse dissout le spectacle et dissout la représentation dans sa précipitation, et une façon, à mon avis, très troublante et très érotique de faire appel à l'étrange, de faire appel au rêve, de faire appel à quelque chose qui se situe à la limite où vacillent les identités, à la limite où vacillent les maîtrises, où vacillent les consciences. Tout ça très très beau, très très séduisant, avec un petit coefficient d'androgynie, comme d'ailleurs chez Cheryl Sutton, pas du tout forcé, qui est le petit coefficient d'androgynie qu'on peut repérer chez Marlène Dietrich, qu'on peut repérer chez Greta Garbo, qui n'est pas du tout un fantasme étalé, mais qui est un petit coefficient de non-identité, de perturbation de l'identité sexuelle, de petite perversion contrôlée mais très forte. Et tout ça me paraît contribuer à faire en sorte que ce spectacle, avant d'être traité sur le plan artistique, sur le plan esthétique ou sur le plan de l'histoire de l'art, me paraît être un spectacle d'une charge érotique.
but some mountains here. Otherwise, what are the characters going to fall off of? And what about stairs? Yodel-a-hee-hoo.
Dans les films de science-fiction, le héros arrive en volant dès le début. Il peut marcher avec zéro de gravité. Il peut tordre l'acier avec ses mains. Et les gens disent, regardez, il peut tordre l'acier avec tes mains. Il ne te demande jamais comment cela est possible. Alors, on n'a pas du tout à s'occuper de la nature humaine. De vidéo, il ne s'arrête pas, il continue jusque dans l'espace. En ce moment,
les premiers programmes de télévision voyagent depuis 30 ans. Tous ces personnages, des programmes de variété, des programmes de jeux et de cowboys filent dans l'espace, intacts. Ce sont les premiers vrais voyageurs dans l'espace. Et quand on écoute avec nos instruments sophistiqués, on veut les entendre filer. Plus on écoute loin, plus on les entend. Ils brillent nos lignes. Ils sont la seule chose qu'on entend maintenant. Le son de leur vitesse. Comme un téléphone qui n'arrête pas de tonner.
Il s'agit d'un univers parallèle qui passe par effraction dans notre univers. Il est question des satellites, il est question des doubles, il est question d'évanouissement, il est question de choses étranges. C'est l'art de l'inquiétante étrangeté. Ça n'est que ça, et c'est tout ça. Et c'est en même temps un spectacle où on a l'impression que tout peut toujours disparaître. La voix peut disparaître dans la machinerie technologique, le corps peut disparaître dans la voix, les projections, les diapos, les films peuvent disparaître dans l'enveloppement sonore. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout, contrairement à ce qu'on croit, d'un art de montage, puisque le montage consiste à juxtaposer et à coller des éléments hétérogènes ou divers. Il s'agit au contraire d'un art de contamination incessante et de consommation incessante des codes et des formes les unes par les autres. Il n'y a pas de différence de registre entre ce qui est live, ce qui est enregistré et ce qui est immédiatement déformé et transformé par les machines. Tout ça est de même nature. Donc, on est complètement dans le simulacre. Donc, on est complètement, non pas dans la représentation, mais dans le jeu sur les représentations, leurs émergences, leurs apparitions et leurs disparitions. Et l'idée même de réel disparaît. La réalité n'existe que comme le support possible et fugitif à un mouvement qui la met en crise.
J'ai rencontré un type. Il avait l'air d'être garçon de vestiaire dans une patinoire. Et c'est ce qu'il était en fait. Et j'ai dit, oh boy, une fois de plus, j'ai visé juste, supposant X égale à X. Tu sais, cela pourrait être toi. C'est un ciel bleu ciel. Les satellites sont sortis ce soir, supposant X égale à X. Tu sais, je pourrais écrire un livre, et ce livre serait si épais qu'on pourrait assommer un bœuf avec. Car je peux voir le futur, et c'est un lieu à environ 70 km à l'est, là où il fait plus clair. Attable-toi ici, tu as l'heure, supposant X égale à X.
I met this guy, and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact, he turned out to be. And I said, oh boy, right again.
Hugging kisses, X, 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 zero, 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 zero.
Just like a woman, she said, it's hard, it's just hard, it's just kind of hard to say, he said, isn't it just, isn't it just like a woman? She said, it goes, that's the way it goes. Goes that way, he said, isn't it just like a woman, she said, it takes one to, it takes one to know one, he said, isn't it just like a woman? She said it to no. She said it to no one. Isn't it just? Isn't it just like a woman? It was a large room full of people, all kinds, and they had all arrived at the same building at more or less the same time, and they were all free, and they were all asking themselves the same question: what is behind that curtain?
Petite pièce qui a été enregistrée par Laurie Anderson en 1977. c'est l'histoire d'un gardien de musée appelé Diego. À l'heure de la fermeture du musée, il fait sortir les gens. Time to go. Il est temps de partir.
Diego used to be a guard at the Museum of Modern Art. He was on the night shift. And his job was to go around the museum and tell people to leave. Or as he put it, snap them out of their art trances. People who'd been standing in front of one thing for hours. He would jump in front of them and snap his fingers. And he'd say, time to go. Time to go. Time to go.
Laurie Anderson, Nuit magnétique. Fabien Belgrand, Didier Cornier, Jean Prisot, Guy Scarpetta, Mehdi Eladj, Daniel Co. Bonsoir.
Vous marchez et vous ne vous en rendez pas toujours compte, mais vous tombez constamment. À chaque pas, vous tombez un peu avant et vous vous retenez. Sans arrêt, vous tombez et vous vous retenez. Et voilà. Comment on peut marcher et tomber en même temps?
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er décembre 1982. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.